Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malt, la bière du 12e joueur.
Bon, Joël, comment ça va?
Oh, Sofiane, ça va? Et sais-tu qu'est-ce que j'ai finalement fait en fin de semaine?
Vas-y.
T'sais, j'ai fait plein de blagues là, sur le Bird Box Challenge. J'ai pas vu encore le film.
le film est très stressant.
Ouais.
Hyper stressant.
Ouais, c'est bien, c'est correct. Mais comme d'habitude, on dirait à chaque fois dans ces films-là, ils sont tannés à la fin puis ils botchent un peu la fin. T'sais. No spoilers,
oui, but... Ouais, je vois un peu ce que tu veux dire, mais à un moment, tu peux pas tout avoir. Je pense que je présume que ce film était basé sur un livre.
Yeah. Donc, ils ont pas aimé la fin du livre, fait que let's do this.
C'est ça, mais le livre, je vois pourquoi mon livre était intéressant, si le livre existe. C'est un peu comme, ça me fait rappeler à la fin de... Comment s'appelle le film avec Denzel Washington? Il jouait un...
À chaque fois que tu me parles d'un film, là, t'es Denzel Washington. C'est-tu par défaut Netflix?
Je voyais avant Netflix.
Since you like this movie?
C'est d'un monde post-apocalyptique. Denzel Washington, c'est un guerrier. C'est Mad Max, là, dans un monde comme Mad Max. Comme si il est comme un prophète, là. Ouais. Comment il s'appelle? Ouais. Ah, Book of Eli. Voilà. De Book of Eli, le livre d'Eli.
Tu t'es trompé avec Will Smith puis I Am a Legend, un truc comme ça.
Et Martin Lawrence, ouais, c'est ça. Bad Boys 4. Mais non, c'est vrai, c'était la fin était très similaire à Bird Box. Puis on se dit, est-ce que c'était un Ladin ou pas? En fait, non, pour le film Book of Eli, c'était bien. Pour Bird Box, moi, je trouve qu'il y avait tellement de tension que j'étais beaucoup plus relax. Ah, c'est bien, une fin un peu unicorne, hein, licorne, genre, j'étais bien.
Bon, moi, de toute façon, c'était juste les jokes qui m'intéressaient. Là.
Donc...
C'est juste parfait. Là. Sandra Bullock va revenir dans des memes là, de façon...
J'avoue que le tweet de San Jose Earthquakes, il était parfait. C'est limite, genre, décrite à saison 2018. Genre.
C'est jamais arrivé. Là.
C'est incroyable. Ça, c'était super. Et il y a eu plein d'autres.
On sait jamais, ça pourrait s'appliquer à notre saison. Hein.
Ouais. Regarde,
saison de transition. Il faut se trouver un film avec le mot transition.
Ouais. Et ça, est-ce que tu as eu la chance d'écouter un peu le renard du soccer? Hein?
On m'a dit qu'on riait de moi.
Oui.
Donc, rapidement, j'ai écouté la première minute. À ta première blague, j'ai fait pause. J'ai besoin de me calmer. C'est méchant, ça. J'étais censé être là.
Oui, mais c'était pour blaguer, évidemment. C'était marrant.
Ouais, je sais. Ouais, t'es comme ça. Tu sais que je suis susceptible.
Très. Mais moi encore plus. C'est ça qui est marrant. Non, mais c'était le fun.
Non,
prends ton temps. C'était le fun. Je me suis amusé. Ensemble, ça en était encore 10 fois mieux. Puis,
Ou trop long.
Il y a ça aussi. Gros merci à Adi, Raphaël et Mathieu Lemay de m'avoir invité. Gros travail de David Disco et Peggy de City Vision Montréal. C'est avec eux qu'on avait fait l'entrevue avec Bernier. Patrice Bernier, après sa retraite. Donc, gros travail de David Disco et Peggy. Donc, vous voulez des productions vidéo, City Vision Montréal. Trouvez-les sur Twitter, je pense Instagram surtout et Facebook.
Instagram surtout, ouais.
Instagram, Facebook, vous le trouvez dessus. Puis les renards du soccer, suivez Adi Raphaël, puis Matt Lemay. Vous pouvez les trouver sur Twitter. Évidemment, Adi fait un podcast, l'homme à un Olympia à Montréal.
Il va bien, là.
Oui. Hein?
Il y a son Mario. Bon, ils n'ont toujours pas gagné. Ils ont perdu contre Lille, c'est ça?
Oui. Balotelli.
Ouais. Mais au moins, ils vont avoir du contenu hors terrain.
On est vraiment... En plus, c'est Mario qui marque là, à la fin du match. Là, mais regarde, on aime le soccer international, là, mais ici, là, c'est le 5-1-4, OK? Moi, je parle tellement de l'impact.
4-5-0, man. 4-5-0, juste à côté du Costco.
Puis grâce à Kevin Moore, 8-9 peut-être. Hein? l'expansion médiatique et marketing des impacts. Mais regarde.
Brûle pas tout le sujet. Là.
Pour revenir à Netflix, t'as vu autre chose récemment sur Netflix? Quelle est la dernière chose que t'as vu sur Netflix qui n'inclut pas Netflix for Kids?
Non, mes enfants n'écoutent pas Netflix, mais mes enfants, ils me volent l'ordi pour jouer à Fortnite. Ouais. Ils volent l'iPad pour écouter des vidéos de Fortnite en jouant à Fortnite.
Incroyable.
Et je dois gérer les chicanes entre mon fils et ma fille qui veulent jouer à Fortnite sur l'ordi et non... En tout cas, c'est... On dirait quasiment le deuxième étage du Stade Saputo. Il y a des conflits.
On n'a pas de ressources. manque de ressources.
On n'a pas assez de budget pour tout combler. Oh comme Joey, j'envisage peut-être de quitter et de laisser ça le président. Comme ça, je peux aller dans un autre pays et me faire critiquer encore plus fort dans un autre pays. Pauvre Joey.
Pauvre Joey. On va en parler là, mais on est encore en mode épilogue là, mais ouais, il se prend plein la gueule. Bon, comme toi, tu regardes pas Netflix, évidemment. Moi, je viens de commencer, ben, je binge-watch de façon aléatoire là, avec ma femme ou tout seul, dépendant de ce qu'on regarde. Puis là, j'ai commencé The Kingdom sur Netflix. C'est une série coréenne qui est au fait une apocalypse zombie dans le temps médiéval en Corée. C'est incroyable. Oh ouais. C'est très bon. C'est voilà, c'est voilà, quand t'as les fiefs et les rois, puis tout ça, quoi. Puis les, tu sais, les sabres katana. Je sais pas si on dit katana en coréen, là. Désolé, là. Parce que je sais que, le Japon et la Corée sont pas une relation nécessairement amicale.
Non. Il y a mon ami Youngjo. Je vais lui demander en cette semaine, en là. Fait, il faut jamais confondre les deux.
Qui aime le Japon en Asie? Honnêtement, je pense pas qu'ils sont aimés. historiquement, je pense que c'est un pays qui a conquis pas mal de pays, là, dans différents siècles. Mais honnêtement, j'aime beaucoup. J'aime bien, je suis très stressé, les zombies ça me fait peur, je regarde souvent les films et les séries zombies, mais celui-là il me fait vraiment peur, donc c'est pour que je continue de regarder.
Tes deux suggestions de base sur Netflix, c'est Denzel Washington et Zombie, c'est ça?
Si tu veux, okay. Si tu me résumais à ça, ouais. ouais. Non, mais il y a plein de choses sur Netflix, hein. Il y a plein.
Mm-hmm. Bon, ben, je pense qu'on est...
Puis j'ai fini la dernière saison de... comment ça s'appelle? Unbreakable Kimmy Schmidt. C'était marrant.
OK. Bon, aucune idée c'est quoi. On n'est pas à la même place.
Connaissant ton père, moi j'arrête de tout. Donc, la musique, j'entends le jazz, du rock. Moi, j'aime ce qui marche. Mais connaissant ton personnage, ton caractère, ça se voit que pour toi, Unbreakable Kimmy Schmidt, tu regardes ça, tu vas dire, oh mon Dieu, c'est qui, avec qui je suis en train de travailler dans les podcasts là? C'est ça que tu vas te dire. Parce que moi, je regarde de tout, donc il est vraiment bien. Mais il y a deux films que je suis excité à voir. C'est le film I.O. C'est un film de Netflix. Oui. C'est un truc, la fin du monde, là, ça a l'air cool.
Toujours la fin du monde.
C'est glacial. Puis il y a un qui s'appelle Close. Un truc d'action, kidnappage, army, woman saves another woman. Ouais. Ça a l'air
bien. Moi, je suis tellement en retard sur tout. Tu sais, la semaine passée, j'ai écouté les Avengers Infinity War.
C'est rien.
C'est la première fois.
T'es tellement loser, man. Come on.
Attends.
c'est quoi ce bordel, man? C'est quoi le bordel?
T'aurais dû voir ma déception comme, oh non, mon Netflix a bugué. Comment ça se fait que ça finit là? No way. Genre, non, c'est pas vrai. Ça finit comme ça.
Après 2h45, tu penses que Netflix a coupé le film, c'est ça?
Mon bandwidth était fini, là. C'était terminé.
Tes deux enfants et ta femme, ils sont sur Netflix en même temps et t'as pas payé le prix pour avoir 4 comptes Netflix en même temps, là. C'est
nous, on est legit. On n'est pas comme vous autres.
On sait pas c'est qui nous autres, là. Ah oui, en parlant de Netflix, il y a une émission qui m'emmerde parce que je la comprends pas, elle est vraiment bizarre. C'est Riverdale. T'as entendu parler?
Oui, j'ai entendu parler, voilà, mais
c'est,
non.
C'est le monde, tu t'appelles le comic Archie, là, tout ça?
Oui.
Bah, c'est
oui,
Archie, c'est Archie, mais en vrai, avec des êtres humains, là, et pas des dessins animés. Ils sont tous encore dans le secondaire high school, puis il y a plein, c'est adulte, dans le sens, genre, il y a des guéguerres de gang, il y a de la drogue, il y a des meurtres.
Comment que ça s'appelait,
c'est hallucinant.
Le truc canadien-anglais là, dans le high school. Degrassi Junior High!
Voilà, c'est Degrassi, mais genre, il y a la drogue, il y a du fight, il y a des gangs.
Donc, c'est pas canadien, forcément.
Pas du tout. Et c'est vraiment de filmer au Canada, parce que ça fait vraiment forêt canadienne. Mais un truc que je trouve ridicule, c'est que, bon, c'est ma femme le regarde, je regarde avec elle de temps en temps, quand je suis dans le coin. Mais ce qui est marrant, c'est que, déjà, c'est une ville ou des endroits où les adolescents ont des positions de pouvoir, dans le sens, il n'y a aucun adulte qui les supervise, rien qui se passe, ils font ce qu'ils veulent.
Ça ressemble à la réalité des foutus. Ma fille approche du 14 ans, puis de plus en plus.
Regarde.
C'est elle qui a le pouvoir.
Je te conseille, regarde-le, tu vas comprendre ce que
non,
je veux dire.
Non, moi, quand j'écoute quelque chose, il faut que ça sorte de ma réalité.
Ta réalité, ok. Qu'est-ce que je peux te suggérer?
Le pire que tu peux j'imagine en plus que tu écoutes des comédies musicales, toi. Tu es dans ce style-là?
Comédie musicale, j'en ai vu une à Broadway. Je vois t'entends à la télé quand ça passe. Ma femme, elle aime ça, puis moi, j'aime bien. Je respecte, genre, quand je vois quelqu'un qui chante, qui danse en même temps.
Sofiane.
Ben oui. Regarde, à Broadway, j'ai vu Hairspray, et j'étais impressionné. Je dis, waouh, comment ils font pour danser et chanter comme ça parfaitement? Parce que moi, j'ai vécu au Moyen-Orient, puis regarder des films Bollywood.
C'est comme quand Mancuso voyait Pietti pratiquer et dit wow, ouais, comment il fait pour courir et tirer en même temps, dans le but. Wow.
Oh. Attends. Parce que moi, mon contexte est différent. Toi, dans un contexte très, très réprimé et réprimant, moi, quand je vivais au Moyen-Orient, voir des films Bollywood, il n'y avait que ça que tu regardais, parce que c'est très populaire. Puis les films Bollywood, c'est des musicals Bollywood. Donc ça chante et ça danse de façon parfaite.
Il y a de la bataille.
C'est, ouais, un peu, puis ben, il sait pas.
C'est pas que tu jamais écouté beaucoup de Bollywood.
Bon, moi, j'en ai écouté beaucoup, puis voilà, juste pour dire, ma culture Bollywood a fait que pour moi, les musicals, c'est quasiment normal. Donc voilà, ça conclut l'émission.
Il s'est rien passé cette semaine, donc on a parlé de Netflix.
On n'a pas grand-chose à faire, ouais. Ah oui, puis évidemment, j'ai commencé à regarder la saison 3 la saison 2 de Punisher. Ça, c'est bon.
Ouais, ça, c'est de la paix et de l'amour.
Oui. T'as tout compris. Hardcore, man. Donc voilà, on peut commencer l'émission. Nous sommes le 27 janvier, un dimanche 2019. Puis on y va dans 3, dans 2, dans 1.
Peu importe c'est où, peu importe où ça joue. MLS, Ligue des Champions, Euro, Mondial. On en parle tout le temps. Dit comme ça, ça fait vraiment bien, mais en vérité, on parle surtout de l'impact. Club. Les pionniers du podcast soccer. C'est la référence soccer à Montréal. Tout simplement, les meilleurs. C'est le CAN Football Club. La petite soccer.
Salut tout le monde, merci beaucoup d'avoir survécu l'épilogue ou la pré-émission de l'épisode 2 de la saison 2019 de CCPP.
People don't give up about our lives. Come on, il faut pas commencer à tout expliquer ce qu'on fait dans la semaine. Là.
T'imagines? Non, regarde, on essaye. Si toi t'en as marre, je vais t'ignorer. Si les fans en ont marre, je vais peut-être arrêter. Voilà.
Oh God, OK.
Voilà, donc merci d'être là. Salut Nilton. Nilton, vous le connaissez, mon coéquipier dans CCPP. Vous pouvez le lire sur les articles sur le CANAFC. Il est aussi dans les coulisses quand ça le tente. Hein? Et puis aussi, tu as une nouvelle collaboration en plus du 91.9 avec Radio MP.
Radio Média Plus, oui, tous les mercredis midi, voilà. Avec Jean Corriveau. Donc, on reparle un peu de ce qui s'est passé dans la semaine. Pour l'instant, on est chanceux. À chaque semaine, il y a quand même du gros mouvement et de la grosse actualité. On va voir ce qui va nous réserver en ce début de semaine.
L'impact, c'est un cadeau. Ils n'arrêtent jamais. Donc voilà, merci beaucoup de nous écouter. Vous êtes sur différentes plateformes d'écoute de balle, de diffusion du CAN Football Club. Il y aura des changements sur comment vous pouvez écouter les différents podcasts du CAN FC. Donc restez à l'affût sur nos pages Facebook et sur Twitter. Et voilà, restez. Il se peut que dès cet épisode-là, il se peut que vous écoutez ailleurs que comme d'habitude. Peut-être, j'ai pas encore décidé parce que c'est moi qui décide. Pas vraiment, mais c'est un consensus
toujours,
là.
Toujours.
Un consensus d'équipe, une collégialité, comme dirait l'Impact.
Kids.
Une décision collégiale.
Ouais, mais ça, c'était dans les...
Le bon vieux temps.
Ouais, l'impact 1.0, là.
Ouais, le bon vieux temps. La collégialité. Donc voilà, restez à l'affût. Comment vous pouvez nous écouter? Peut-être dès maintenant, c'est sûr, dans un futur très proche. Ça va demander que... voilà, hint, restez à l'affût soyez abonnez-vous à la page de Spreaker du CAN Football Club. Et commencez à utiliser des applications de balle de diffusion. Que ce soit sur Apple, Android ou Windows Phone, etc.
Donc, on pourrait aussi remercier les fans. Notre premier épisode de cette saison, on a eu quand même de belles écoutes. Hein. On a quand même atteint un nouveau plafond, oui. c'est peut-être probablement un plafond. oui, c'est ça. Ouais, ce qui est le fun, c'est qu'on a des nouveaux aussi là, qui nous découvrent cette année. Incroyable.
Oui. Les gars, je sais pas vous êtes qui, mais vous êtes cool. Merci, monsieur. Merci madame, c'est très gentil.
Mais pour l'instant, tout va bien, on est de bonne humeur, on fait juste des blagues. C'est peut-être qu'ils vont nous lâcher quand on va
dire la vérité sur le club.
On va être obligé de dire la vérité sur le club.
Linton, sois pas négatif, la saison n'a pas encore commencé. C'est plus positif que l'an dernier, il faut avouer. Mais ça, on va en parler, on a le temps. On va voir les matchs pré-saison. Hein?
Exact.
C'est ça qui compte.
Exact. Et on est accessible. Hein? Des questions, on essaie toujours un petit 24 heures d'avance de lancer un débat sur Twitter avant l'enregistrement pour que vous nous proposiez des questions. Ce show-là est pas mal à vous aussi. Hein? en principe, on parle, mm-hmm. C'est l'après-match de l'Impact de Montréal, mais là, présentement, à part les entraînements qu'on voit un peu dans les médias sociaux, on n'en sait pas trop. Donc, pour l'instant, vos questions deviennent hyper importantes dans notre émission, puis pas seulement les fins de semaine. Vous pouvez nous poser des questions tout le long de la semaine. Pas trop compliqué parce qu'on aime ça avoir l'air intelligent.
Regarde, littéralement, c'est un podcast pour le peuple, par le peuple, grâce au peuple. Voilà, Vox Populi. Évidemment, pour nous supporter, c'est pas compliqué. patreon.com/canfootballclub pour un support financier minimum pour qu'on puisse garder les lumières allumées et ça nous motive et ça nous continue à faire d'autres projets ou même renforcer ce qu'on fait déjà. Évidemment, les réseaux sociaux, canfootballclub, Instagram, Facebook, Twitter, canfootballclub, abonnez-vous, partagez l'évangile à vos amis, à vos collègues, à vos coéquipiers de foot, au Soccer 5, au Parc FC, n'importe où vous jouez. Partagez la bonne humeur et partagez aussi l'évangile du CANFC. Donc, Nilton, le gros thème de cette émission, évidemment, hein, on connaît le titre de cette émission.
Déjà?
Ben oui. Ça commence par Happy, ça finit par Gilmore. Donc, je pense que c'est réglé.
You're confusing me. Just let me put the ball in a hole.
L'émission,
ça commence déjà à être surutilisé, celle-là.
God, son, what the hell are you doing?
Ah ouais, OK.
C'est correct.
Je vais décider.
Je pense qu'il nous reste encore une semaine.
On va décider en collégialité le titre de cet épisode-là. Désolé, Nilton, tu as tué mon buzz. Kevin Gilmore a été nommé le nouveau président du club de l'Impact de Montréal, nommé par nul autre que le propriétaire qui est maintenant seulement propriétaire du club, Joey Saputo. Donc, c'était la grosse nouvelle, le gros buzz autour du hashtag MFC. Donc, voilà, tant mieux. L'Impact a besoin d'un peu de visibilité. Donc, ça tombe bien. Donc, Kevin Gilmore, ancien du Canadien Montréal, derrière les différentes productions médiatiques comme 24CH, le club 1909. Et vous, si vous suivez le hockey, il était avec les Anaheim et les LA Kings en tant que, je pense, quasiment assistant de GM. Il était plus dans le sportif et aussi avec
les Kings, il avait comme traversé la ligne du commercial vers l'opérationnel.
Exactement. Puis avec
Anaheim, il avait justement participé au lancement de la franchise avec Disney.
Ah, ça aurait bien d'avoir un Kevin Gilmore de la MLS en 2009.
Ouais.
Est-ce que c'est trop tard?
Non.
Non. Donc voilà, donc Kevin Gilmore, c'est aussi simple. Hein. Et puis les gros thèmes de Monsieur Gilmore, c'est vraiment, bon, évidemment le classique, il aura plusieurs défis à relever, que ce soit du côté de les nombres de membres ou d'abonnements de saison du côté de l'Impact, remplir le stade, rendre l'expérience plus intéressante, rendre l'Impact plus fringant médiatiquement. Évidemment. Et aussi, son gros mot, sa grosse phrase qui a vraiment changé, ces deux grosses phrases que j'ai retenues, c'est il pense que le club, que ça va prendre un changement de culture. En faisant référence, être dans l'ombre du Canadien, c'est pas nécessairement quelque chose qui nous fait un petit marché, mais c'est important qu'on se comporte comme un gros marché. Parce que Montréal, pour lui, est un gros marché. Il n'y a pas nécessairement temps, mais on va en débattre. Il dit aussi que la culture doit donc changer. On doit agir comme un club de gros marché. Je pense que c'est la phrase clé qui a été retenue. Et puis il parle aussi du rôle du club à l'intérieur de la communauté des partisans, que ce soit les partenaires coopératifs. On a parlé souvent, même Tony Hilton, là, il faut avoir de l'argent corpo de façon systématique. Et peut-être, je pense qu'il va rentrer beaucoup. Il utilise souvent le mot sport et divertissement. Je pense que c'est des mots qui vont revenir assez souvent avec dans son vocabulaire. Évidemment, l'hypothèse dans tout ça, Hilton, c'est que le club doit gagner. Hein, ou de bien jouer sur le terrain, avoir des succès.
Toujours.
Donc, mais ce qui se fait en arrière, dans les coulisses, va être important. Donc, je pense que c'est ça le gros message de Kevin Gilmore, avec quelques références au hockey que je trouvais intéressantes, des belles métaphores et des exemples pour mettre en contexte son expérience. Donc, ça, j'ai beaucoup aimé. Quand il parlait de dépenser beaucoup ne veut rien dire, etc. Donc, je trouve ça intéressant, Nilton. Donc, toi, maintenant que j'ai trop parlé, à toi de me dire, toi, qu'est-ce que tu penses de cette nomination de Kevin Gilmore? Comment est-ce que tu l'as pris initialement et comment tu t'es ressenti pendant la conférence et ensuite après que tu as eu le temps un peu de ruminer un peu tout ça?
Moi, ma première réaction, c'est un peu comme tout le monde, l'effet de surprise et aussi la surprise, pas autant sur le choix du propriétaire, parce que de toute façon, on ne fera pas semblant, là, on ne les connaît pas tous les candidats potentiels à ce genre de poste-là. Tu sais, oui, on avait entendu les noms de Ray Lalonde, oui, on avait entendu son nom à lui, Boivin, mais tout ça, c'est parce qu'on fait nos références qu'on connaît ici autour. Là,
et moi aussi, j'étais candidat.
Donc, ah oui?
Non.
Ça a accroché où?
Dans le package.
Non. Donc, mais il y a aussi le discours. Le discours était très, très étonnant parce qu'il allait vraiment... c'était pratiquement l'inverse du discours de Joey Saputo dans les 6 derniers mois. Donc, on imagine que si Kevin Gilmour est arrivé là avec un discours totalement différent de Joey, où il se présentait comme un petit marché, comme une espèce de un sentiment de Donc, j'allais dire de loser, mais c'est un peu trop fort, mais c'est l'impression d'abandonner.
Est-ce que tu as l'impression que Joey Saputo disait que la Camorra est un petit marché?
Joey Saputo l'a clairement dit qu'il était un petit marché, qu'il ne pouvait pas compétitionner avec avec Seattle et tout ça, puis qu'il devait viser d'autres choses.
Je pense qu'il parlait du club. Je pense qu'il parlait vraiment de la capacité économique de l'impact.
Mais tu vois, c'est tout est là. T'sais, tout est là dans le discours qui laisse à des interprétations différentes d'une personne à l'autre selon son filtre à lui. Ouais. Là, Kevin Gilmour est arrivé là comme un vrai vendeur. C'est-à-dire, tu sors de là, tu n'as aucune vision possible du projet, qu'elle soit réaliste ou pas. C'est clair et net que le message qui est envoyé, c'est que l'Impact de Montréal, c'est un gros club, c'est un gros marché. Montréal est capable de compétitionner avec tous les autres clubs de la MLS et l'Impact de Montréal est capable de compétitionner avec les Canadiens de Montréal. Il n'y a aucun problème le fait qu'il y ait un autre club ou d'autres franchises dans son milieu. Donc, son message était clair et net. Et ça faisait du bien d'avoir finalement une conférence de presse en dehors du cadre tactique et technique. Ça faisait du bien d'avoir une conférence de presse positive où personne, oui. Je pense que c'était une des premières fois que personne avait une critique rapide à faire. Tout le monde était positif, tout le monde était heureux. Kevin Gilmour a absolument rien fait encore, mais tout le monde est content.
C'est ça, on a l'impression qu'il y a une sorte une immunité à travers tous les intervenants autour du MFC, du supporter jusqu'aux médias, en passant à travers les corpos, le fan fini, le fait fan, tout le monde, toute la population qui est observatrice et partie prenante autour de l'Impact de Montréal. C'est vraiment, on a l'impression tout de suite qu'on veut que Kevin Gilmour réussisse, de un. Ça, c'est assez clair. Et de deux, on a été vraiment charmé par son discours un peu vendeur, comme tu as dit, mais surtout direct. Il était assez direct. Il n'a pas pris trop de tours de passe-passe. Il n'a pas nécessairement été trop vague, du moins dans le domaine dont il connaissait. Dans le sportif, il a dit clairement, le sportif, c'est pas moi. J'aurais des décisions à prendre, mais il a été assez clair que c'est Rémi Garde. Donc bon, ensuite, on peut déduire un peu, est-ce que l'Impact a besoin d'une direction technique beaucoup plus hiérarchique à l'intérieur du sportif? Ça, c'est une question qu'il faut se poser honnêtement, parce que ça porte à confusion, même si on sait que Nidisantis est toujours là. Mais on peut pas se baser. Est-ce qu'on peut seulement permettre à un entraîneur-chef qui, là, temporairement, dirige, dicter la vision sportive de l'équipe première pour les prochaines années, ce qui lui va demander de faire signer des joueurs à des contrats à long terme, parce que les joueurs ne viendront pas pour un contrat de 6 mois, sauf Rod Fanny. Donc, c'est pas mal ça. Donc, il y avait ça.
Moi, je suis très, très, très surpris par les derniers comportements de Joey Saputo avec le club de Montréal. Tu sais, ces dernières décisions, que ce soit Rémi Garde, Le Duc, maintenant Kevin Gilmour, tu sais, on a beaucoup, beaucoup critiqué Joey Saputo. Et ses réponses dans les derniers 2 ans, c'est pas mal du côté de nos critiques. Il répond à nos critiques. Hein? Pendant très longtemps, on n'était pas convaincus de la qualité du staff. Il a répondu avec pas seulement un Rémi Garde, mais en lui donnant tout l'entourage qu'il veut avoir. Oui. On a critiqué le volet opérationnel. Il est allé chercher, oui, un enfant chéri du club qui va bien passer le message pour tout ce qui est le côté partisan. On voit un Le Duc là, on ne peut pas critiquer parce que Le Duc est aimé. On ne sait pas s'il va être capable de rendre d'atteindre des objectifs, mais au moins, déjà, il se positionne, Joey Saputo, pour répondre à toutes les dernières demandes des partisans, des observateurs, des médias. Et tout le monde disait qu'il y avait un problème, que Joey Saputo était peut-être pas la personne qu'il fallait pour occuper ce poste-là de président et tout ce qu'il demandait avec. Et il n'a pas eu peur de se tasser à tel point que, tu sais, la question d'Olivier Brett était tellement importante parce que là, on vient de comprendre que Joey Saputo sort littéralement de ce club-là. T'sais, oui, c'est le, oui, il va avoir l'ombre de Joey Saputo. C'est pas vrai qu'il va disparaître, mais concrètement, il n'est plus là. Il était peut-être rendu. T'sais, souvent, quand on.
Je suis fan des symbolismes. Je trouve que ce symbole est intéressant, mais je pense qu'on a un peu surdramatisé, à mon avis. Mon humble avis, ouais, un peu surdramatisé parce que un bureau est un bureau, là, maintenant. Si oui, Joey Saputo quitte son bureau pour laisser le nouveau président, je trouve que c'est normal. De un, c'est logique. Le contrat m'aurait choqué. Je dis, ben, pourquoi il est encore là? Et de deux, voilà, ça change quoi? Joey Saputo, il met l'argent, puis le président va exécuter.
Sa présence influence beaucoup, beaucoup de choses. À chaque fois que je parle à quelqu'un proche de l'organisation, on me dit, oui, mais Joey Saputo, c'est spécial. Hein? Il a son style. C'est, quand il est convaincu d'un truc, c'est assez difficile. Là, il n'est plus là. Oui, il sera plus tenté de.
Oui,
il fera plus de scènes dans les vestiaires. Là. Tout ça, c'est. On sent un détachement professionnel. Il va rester qui il est, mais il va l'être probablement directement avec une seule personne.
Ok, je comprends. Donc, au fond, tu dis que Joey Saputo s'est mis dans une position de ne plus devoir faire du micromanagement ou être plus présent dans les décisions administratives et personnelles qu'il n'aurait peut-être jamais dû faire.
Peut-être que je me trompe, mais je le sens maintenant assez mature et humble pour se dire, pour reconnaître ses défauts et il s'est positionné pour plus que ses défauts nuisent au club. Comme il y a eu la saga du Nacho Piatti Gate avec le 3 joueurs de 2 millions au lieu d'un seul à 6. Tous des trucs comme ça, là. À chaque fois qu'il y avait une intervention de Joey Saputo, on traînait 2-3 mois de mini-scandale.
Mais honnêtement, je ne pense pas que le fait que Kevin Gilmour aura son bureau, ce qui est normal, le bureau du président, parce que c'est son titre, que Joey Saputo n'ait pas le droit de dire ce qu'il dit comme d'habitude publiquement. S'il le fait,
je pense qu'on l'entendra plus.
Non, je sais, mais ça lui. Je pense qu'il va se garder le droit de faire des interventions publiques. Il va évidemment parler à Kevin Gilmour avant ou pas, c'est son choix. Donc, mais en même temps, ça va un peu affaiblir beaucoup le pouvoir de Kevin Gilmour si Joey Saputo parle régulièrement, sans même en parler à son président qui paye chèrement pour pouvoir rediriger la barque vers le beau côté, là, un peu.
Moi, j'ai des doutes. Si c'est vraiment ce qu'il nous a présenté. Bon, encore pour revenir à la saga de Jimmy Briand, là, mais l'histoire de Jimmy Briand n'aurait pas passé comme ça allait passer à l'époque.
Non.
Par Joey Saputo.
Oui, mais en même temps, Joey Saputo ou pas? Joey Saputo ou pas? Il n'y a pas 50 personnes entre le président et le sportif. Il y a zéro personne. Ils se parlent directement. Donc, ce n'est pas comme s'il y a des couches et des niveaux pour faire des décisions. Parce que la décision de Joey Saputo de ne pas avoir voulu payer le package supposément, whatever, tu sais, les combinaisons différentes, là, que ce soit une indemnité non officielle au Guingamp ou pas, ça ne change pas le fait que c'est comme une décision de Joey Saputo qui est à ce moment-là président. C'était sa décision.
Oui, mais la différence, c'est que si Joey Saputo prend une décision directement avec le joueur ou le clan du joueur, il y a tout le contexte. Tu peux l'imaginer le scénario où Joey Saputo est en colère et ça déborde. Tandis que s'il y a un tampon entre les deux où Joey Saputo pète sa coche auprès de Kevin Gilmour, lui, après, quand il va parler au clan, c'est déjà différent. Il y a déjà une approche différente.
Non, c'est vrai. C'est la même décision, le même résultat, mais il y a ce buffer que ça peut être Kevin Gilmour peut dire non, on n'est pas intéressé, on ne peut pas faire ça, merci, au revoir.
Exactement. Il y a l'effet du temps aussi qui peut atténuer une colère. Moi, je vois ce positif-là. La crainte que j'ai, et ce que je n'ai pas trop compris dans le nouveau organigramme, si on veut, de ce club-là, c'est Rémi Garde, il se rapporte à qui maintenant?
Ben, il se rapporte à qui avant?
Bon, au président Joey Saputo, parce que de toute façon, c'est lui qui l'a embauché.
Ben voilà, ben
présentement, Kevin Gilmour qui va s'occuper du destin de Rémi Garde et de son remplacement éventuel?
Je pense qu'il fera partie des gens qui vont décider, parce qu'il y a un conseil d'administration à la compagnie qui gère l'impact, l'OBNL. Il y a un conseil d'administration dont Joey Saputo est le chef. Donc,
parce que
je pense que c'est le CA qui va décider qui sera le nouveau entraîneur.
Ça devrait pas, parce que ça devrait être le président qui s'occupe de ça, qui s'occupe du destin du staff. Et des futurs staffs. Oui, s'il y a une chose que Joe Saputo était bon, qui avait les connexions pour, c'était justement ça, pour le staff. Kevin Gilmore n'a pas ça du tout. Là.
Oui, tu vas laisser les rênes à Kevin Gilmore de prendre le futur entraîneur de l'Impact de Montréal?
J'espère que non.
Non, mais comme lui, comme seul preneur de décision, je ne pense pas. Pas tout de suite. On va laisser le temps de travailler.
C'est ça qui reste un peu à éclaircir un peu le rôle de... Tu sais, quand on regarde le titre de Patrick Leduc, ça a pratiquement l'air du supérieur à Rémi Garde, mais on le sait tous que ça ne l'est pas.
Non, c'est pas ça, ouais.
Le président, en principe, doit avoir la destinée de tous les... de tous ses employés, mais on sait que Kevin Gilmore n'a pas les compétences pour ça.
Regarde, ça nous amène à un truc simple. C'est pas compliqué. Soit la structure sportive de l'Impact suit le modèle de Sporting Kansas City ou d'Arsenal avec Arsène Wenger, soit tu suis comme l'entraîneur qui est aussi directeur technique, donc il fait tout. Peter Vermees, on peut même voir Ben Olson à DC comme ça un peu si vous voulez. Siggy Smith, rest in peace, que peut-être qu'il y avait ce rôle-là un peu à Seattle, mais pas nécessairement.
À Seattle
un peu plus, quoique ils avaient une structure sportive beaucoup plus importante que celle de l'Impact, mais peut-être il y avait un pouvoir décisionnel plus important à Seattle. Et puis là, je vois l'exemple Arsène Wenger, là, c'est là, en termes de longévité, c'est assez hallucinant. Donc, est-ce que l'Impact doit aller vers là? Donc, ça demande que Rémi Garde ou le futur Rémi Garde, ok, moi je commit à ce club-là. Est-ce qu'un gars qui est en dehors du club, même en dehors de la province ou du pays, peut vraiment avoir ce genre d'engagement et de commitment envers un club? J'ai un doute. Maintenant, est-ce qu'il faut faire le classique? Tu as un directeur sportif technique, que lui, c'est le 1 pour le hockey, c'est le general manager. Là, il faut le Marc Bergevin de l'Impact de Montréal. C'est peut-être ça qu'il faut. Un directeur gérant qui a des gens autour de lui. Toi, tu gères les contrats comme Vasiliki. Toi, tu es scout comme exécutif, un scout senior comme
Nick DeSantis. C'est ce que Kevin Gilmore devrait faire. Il devrait s'en prendre quelqu'un là-dessus pour ce côté-là.
J'attends, mais est-ce que c'est dans son mandat tout de suite? Parce qu'en ce moment, il est là, je pense, pour vraiment gérer l'Impact de Montréal, la corporation. C'est le revenu, les dépenses, le profit, la culture, la marque IMFC. Je pense que sa priorité, j'ai l'impression que c'est le dossier plus urgent. Parce que le sportif peut travailler en parallèle avec avec le coopératif, dans le sens, gérez-vous les billets, gérez les dépenses, gérez les embauches. Moi, je suis Rémi Garde, j'ai besoin de dans les mains le budget que j'ai pour des joueurs, puis je vais gérer mon 3-5-2, puis je vais gérer mes entraînements, etc. Donc, ce qui est normal. Donc, mais je t'avoue que c'est un débat à voir, parce que moi, je suis beaucoup plus intéressé par le modèle Peter Vermees, mais ça demande la bonne personne, ça demande un commitment, et ça demande vraiment... Voilà, quoi. Moi, honnêtement, je voyais Nick DeSantis dans ce rôle-là il y a 5-6 ans.
Exact. Mais si on fait ça aujourd'hui, c'est le...
Oui, puis même à ce moment-là, c'était risqué. Mais dans le sens, maintenant, il est tellement personne non grata, j'ai l'impression, au public. Il y a même s'il ne l'est pas, il y a toute une connotation négative de condition, non. T'sais, j'ai l'impression que on traîne
une des vieilles histoires.
Voilà, on est en train de dire Voldemort, mais il faut pas le dire, tu vois. Nick DeSantis, il faut pas dire son nom, alors que c'est un gars important dans le club.
Mais de façon idéale, ça serait que Rémi Garde connaisse un bon début de saison, qu'on l'impact fasse les playoffs cette saison, et là on pourrait proposer 2 ans d'extension au contrat de Rémi Garde, et là ça laisserait le temps à Kevin Gilmore de s'occuper essentiellement de la commercialisation du club et de donner, comme à la Peter Vermees, les clés du volet tactique et technique de ce club-là entre les mains de Rémi Garde, et on serait en voiture pour un bon petit bout, là.
Non, c'est vrai. Puis en plus, regarde, si on prend un exemple local, ok, local, canadien-américain, Tim Bezbatchenko, qui était le directeur général du Toronto FC, et maintenant le président du Columbus Crew. Berhalter a quitté Columbus pour se joindre comme sélectionneur des États-Unis. Donc voilà, maintenant, Tim Bezbatchenko est un exécutif à Columbus. Donc, on peut se dire, est-ce qu'il y a un rôle seulement exécutif? Est-ce qu'il est aussi dans le sportif, etc.? Donc, tu sais, il y a une réalité de la structure sportive administrative du club, l'organisation, la branche organisationnelle. et comment ça peut se traduire sur le terrain et dans la réalité vraiment du club. Et c'est un bon point, c'est un bon débat, et je pense que, honnêtement, moi je vois Patrick Leduc, je dis, man, Leduc, si tu pourrais être ce gars-là, le directeur technique, je pense que c'est intéressant. Mais on parle de ce genre de personnes parce que tu peux, comment dire, par exemple, le crew, en ce moment, le crew, Bess Bancheco, c'est le président, Caleb Porter, c'est le nouveau coach, puis ils ont comme directeur général intérim, Pat Anstad, le Canadien, qui était gardien de but, etc. Une légende canadienne et MLS. Donc, c'est pas mal comme concept. Donc, tu peux tout le temps... lui, il était dans le staff comme assistant coach à Columbus. Maintenant, il est GM, intérim, directeur général. Donc, ça peut être ça aussi. Il y a ce modèle-là, mais ce modèle-là doit marcher aussi avec les entraîneurs qui vont venir. Et il faut qu'il y ait une sorte d'hierarchie assez pointue et assez claire. Et les rôles et les responsabilités assez claires. Donc, moi, je vois pas un gars comme Rémi Garde être dans ce modèle-là, à moins que vraiment lui, il croit au projet et que Joey Saputo croit à ce genre d'association, parce que moi, j'y crois un peu plus. Mais le truc le plus simple, c'est d'avoir un directeur sportif technique vraiment purement qui mange l'impact et qui vide l'impact. Pour lui, l'impact, c'est l'oxygène, même s'il n'est pas du club. Okay, il faut que ce soit quelqu'un de compétent. Je pense que l'impact pourrait aller vers là. Ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est un débat.
Mais les candidats ne sont pas nombreux. Là. Comme tu disais... DeSantis a été un peu crucifié sur la place publique, donc il ne peut pas occuper cette place-là à moins d'une catastrophe.
Oui, il est sur une blacklist, là, j'ai l'impression.
Mais une blacklist populaire, exactement.
Oui, c'est ça, parce que dans le club...
Même s'il y avait les compétences, jamais ça serait accepté publiquement.
Ouais.
Donc, il reste quoi? Il ne reste pas une tonne d'options, là.
Non.
Un Leduc qui vient d'arriver dans l'organisation, est-ce qu'un Bernier pourrait occuper ce genre de position-là? Mais
Patrice
éventuellement,
Bernier,
probablement...
Rudy Doliscott, Lloyd Barker, est-ce que Philippe Lafroy, Wilfried Nancy qui est là, peut-être, mais lui, il va être coach, Wilfried Nancy.
Ben, t'sais, tout ça peut changer. T'sais, on l'a vu avec le Red Bull où Hamlet est devenu le directeur technique en étant assistant coach.
C'est vrai.
On a eu des situations comme ça. Là. Mais s'il y a un autre truc, là, si tu me permets. Là,
toujours.
On essaie-tu de trouver, parce que là, il y a la vague positive, puis l'arc-en-ciel, les licornes, c'est toujours le fun.
Les guimauves, là, c'est bon.
Est-ce qu'il y a deux ou trois trucs qui t'inquiètent dans cette nomination? Il doit en avoir.
Honnêtement, non.
Après une semaine, là, est-ce que tu t'es demandé, coudon, est-ce que c'est normal qu'il y ait juste du positif? Où ça pourrait accrocher?
Du côté de Kevin Gilmour, le fait qu'il soit là, je vois pas de problème. Je vois pas. Honnêtement, j'ai rien de négatif par rapport à qu'il soit là. Maintenant, c'est une question, est-ce qu'il va pouvoir exécuter ce qu'il veut exécuter? Je sais pas encore c'est quoi son plan. C'est quoi le budget qu'il a pour le faire? Mais tu sais, c'est pas compliqué. Hein. Tu te dis, quels sont les objectifs de l'impact au niveau corporatif? Vendre plus de billets, remplir le stade. Vendre plus de billets de saison, ça, c'en est un. Remplir le stade, ça, c'en est deux. Ça, c'est tangible. Hein. Tu ramènes des chiffres, tu dis, je veux arriver à 15 000, à 20 000. Donc, tu dis, comment tu fais pour... Tu recules et tu dis, comment je fais pour arriver à ces objectifs-là? Après, tu as les objectifs qui sont beaucoup plus... métaphysique là, genre avoir une culture plus forte du club. Je sais pas ce que ça veut dire concrètement. Ça chacun sa propre définition à l'intérieur de sa propre entité.
C'est comme l'ancien buzzword, la philosophie. Là.
La philosophie, donc c'est ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. Maintenant, on verra. C'est parce que Jack, Gilmour, il a trois défis. Là. Je l'ai écrit sur
à Kevin.
Non, je l'ai écrit sur. vous avez lu mon article là, j'ai partagé sur Facebook et Twitter. Là, je l'ai écrit sur African Life. Et puis je disais, ces trois défis, c'est déjà le statu quo. C'est quoi? C'est quoi qui arrive en ce moment pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il faut changer ou ce qu'il faut changer ou pas? Établir une vision. Ça, c'est deux. C'est super important. Et puis établir cette vision, ça demande du temps. Ça demande c'est quoi mes objectifs et comment je peux y arriver. Et le 3, j'ai oublié, donc je suis en train de le regarder tout de suite. C'est les 3 chantiers de Kevin Gilmour. J'arrive les gars. Désolé. Faire le statu quo, c'est ça, établir une vision et rattraper le retard. Donc il y a ça. Il faut rattraper le retard. Et ça, c'est quelque chose dont que Kevin Gilmour en a fait mention.
As-tu peur?
Tu me stresses, hein? Là. Là, je suis en mode bird box, là. Je stresse.
As-tu peur que Kevin Gilmour, sa vision, va venir éventuellement...
Je le savais que t'allais dire ça. Vas-y, continue, je sais ce que tu veux dire.
Le mot était un peu fort, mais disons, je vais le dire comme ça. Est-ce qu'éventuellement la vision de Kevin Gilmour va choquer les puristes qui sont déjà dans le stade?
OK.
Parce que là,
vas-y.
On peut dire que ceux qui sont là, c'est ceux qui n'ont pas besoin de marketing. C'est ceux qui sont là pour...
Ils sont déjà vendus. Ils veulent que l'équipe gagne. Ils veulent pas Toronto. Ils veulent que Vancouver s'écrase.
Ils ont accepté le concept de la MLS avec ses défauts. Ouais. Ils ont accepté toutes les contraintes que l'Impact de Montréal doit faire face.
Ouais.
Donc, ils sont là saison après saison, malgré leur frustration, quelques bons moments. Là, ce qu'il faut aller chercher, c'est un autre public qui demande d'autres sortes de divertissement, parce que c'est plus du tout juste le volet sportif, c'est un divertissement tel quel.
Ouais.
Est-ce que éventuellement la vision va peut-être en choquer quelques-uns parce qu'il va avoir des effets collatéraux?
Regarde, ce choc existe déjà. Déjà, il y a beaucoup de débats sur Twitter où il y a une sorte de hiérarchie des fans, où t'as différents groupes, t'as les ultras, t'es ultra ou pas. T'as la nouvelle catégorie, les 16-42. Okay. Puis t'as aussi la catégorie qui est assez souvent, on appelle ça les OG. Ceux qui étaient là à Robillard, qui sont pas des ultras, mais qui sont encore là. Tu sais, je pensais par exemple à Saint-Babit. Je sais pas une insulte dans Saint-Babit. Juste un exemple, je trouve que Saint-Babit est un exemple intéressant.
Figure, ouais.
Ouais, mais est-ce qu'il en parle souvent? Puis j'aime beaucoup son point de vue. Puis j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, pas de hiérarchie, mais une sorte de classe sociale, mais pas nécessairement, il n'y a pas une qui est meilleure que l'autre, mais juste pour dire qu'il y a une sorte de division, ce qui est normal. On est tous hétérogènes, on n'est pas nécessairement les mêmes personnes, on est tous assez uniques. Et je trouve ça assez intéressant que quelqu'un qui est là au stade depuis 2012 va peut-être voir avec dédain un gars qui vient d'arriver parce que Kevin Gilmour a fait une campagne Instagram incroyable, puis il a envoyé les joueurs de l'Impact faire des shows de cuisine et des shopping Costco avec un influenceur YouTube. C'est que, j'ai vu ça, donc maintenant je vais aller à l'Impact. Il y a un promo spécial avec mon YouTube préféré. Il a joué à Fortnite avec, je sais pas, un YouTuber connu qui joue au jeu au Québec. Puis voilà. Tu sais, il y aura ce dédain-là. Et attendez-vous que l'Impact soit beaucoup plus présent dans des plateformes médiatiques non traditionnelles et qu'il se rapproche beaucoup des milléniaux et des Gen Y, Z et autres. Donc il y aura ça déjà. Mais le hic, c'est que, un truc que je l'avais dit, on l'avait dit à la dernière émission, l'émission spéciale qu'Anne FC fait de saison au Soccer 5. On était avec différents fans, Abdou, on était avec Stéphanie,
Steph, ouais.
Normand Ouellet, il y avait Dominique,
Richard,
Dominique Richard. Donc c'est des gens qui étaient assez différents dans leur façon de supporter l'Impact, dans le sens où ils venaient de différents endroits dans le stade et ailleurs dans la province. Mais à la fin, ce que j'essaie de leur dire, puis je l'ai dit plusieurs fois, à la fin, pour le club, vous avez des relations différentes avec le club, mais à la fin, vous êtes des consommateurs. Le club a besoin que vous consommez la brand. Maintenant que votre consommation soit passionnelle, soit logique, soit économique, soit « Ah, mon ami y va, donc j'y vais avec lui », ou soit basé sur le foot, basé avec l'ADN du Québec, parce que le bleu, c'est votre couleur. Quelle que soit votre relation avec le club, qui fait que vous payez de l'argent, l'impact... Le Barça, le Real Madrid, le Bayern de Munich, le FC Azor, là, ils ont besoin de votre argent pour pouvoir payer des dépenses, faire des profits, acheter des joueurs et le cycle continue. Donc, il y a une relation consommateur. C'est bien d'être un groupe de supporters, Ultra, 1642, le mur jaune de Dortmund, etc. Mais ces gens-là payent. Donc, le club a besoin d'eux pour survivre financièrement. Donc, il y a tout le temps cette relation consommateur que j'ai l'impression que les gens, pas que veulent oublier, mais voient ça comme une insulte, alors que, tu sais, quand on dit « Ah, mais l'impact augmente nos prix billets de saison », oui, mais l'impact a besoin d'argent. Il vous dit qu'ils font des pertes. Même si le club ment ou pas, je ne sais pas. Mais ce que je dis, l'impact est en train de dire clairement depuis des années qu'on perd de l'argent, ils augmentent les prix, vous n'êtes pas content. Donc, je comprends que c'est votre argent. Moi aussi, j'espère acheter des billets de saison dans un futur proche, j'espère. Mais ça fait que c'est une relation commerciale au fond, dans la transaction qui n'est pas émotionnelle, c'est une transaction commerciale.
Mais tu vois, c'est là que c'est le premier choc, parce que la critique des gens qui sont déjà là, c'est pas autant faites plus d'argent, c'est je veux en savoir plus sur votre club, je veux une plus grosse couverture, je veux une meilleure couverture, j'en veux davantage d'Impact de Montréal. Pour eux, que le stade soit à 9 000 ou qu'il soit à 20 000, ils s'en foutent un peu. C'est sûr que c'est mieux pour l'ambiance d'avoir 20 000 personnes qui suivent un match. C'est bien, mais tout le volet commercial, ils s'en foutent. T'sais. Ils vont dire, oh, je vois pas mon club au centre-ville parce que j'aime ça être dans une situation où j'assiste à quelque chose de populaire et de in. Mais si Kevin Gilmour arrive, il dit, mais vous savez quoi, les boys, on va commencer à avoir un pricing dynamique parce que quand LA va arriver à Montréal, ben vos billets vont vous coûter le double parce que c'est notre façon de faire plus d'argent. Il y a déjà un choc.
Oui, exactement.
Il y a déjà un choc parce que c'est pas vrai que les gens qui sont là en place se voient comme des consommateurs. Si tu vas dans la section ultra et tu tiens ce langage-là, ben tu vas te faire lancer avec les flares sur le terrain. Ils se voient pas comme des consommateurs. Ils sont là depuis tout le début.
C'est normal.
Le club et c'est normal. Ouais. Même chose du côté des 1642. On l'a vu. Ils ont fait différentes demandes au fil du temps. Là, il semble avoir une plus grande couverture, une plus grande ouverture pour le club pour faire tel truc. Mais essentiellement, le mandat de Kevin Gilmour, c'est de rendre ce club-là rentable, de maximiser la commercialisation et les revenus et de faire des bons choix d'investissement. Est-ce que ces investissements doivent être dans l'effectif? Tout le monde va dire oui.
Peut-être que c'est pas ça.
Peut-être c'est dans les infrastructures. Peut-être que l'effectif tel quel est suffisant. Tout ce qu'il faut, c'est de s'occuper de façon optimale toute la clientèle corporative parce que c'est pas vrai qu'un client qui a des billets de l'Impact de Montréal est capable de les passer à ses autres clients. Là. C'est pas une sortie qui est très, très in là, en plein milieu de l'été. Là. Aller à l'Impact de Montréal, présentement, c'est compliqué.
Mais je t'avoue que...
D'être accompagné au niveau corporatif. Quand tu as des billets des Canadiens de Montréal, que ce soit une saison catastrophique ou pas, il y a l'expérience client qui est à son optimum. Nous, notre expérience client, ceux qui sont déjà là, c'est d'aller dans un stade de foot, check, avec du foot de qualité, check, avec certaines vedettes, une appartenance. On a créé une appartenance avec ce club-là. On a des émotions dans la victoire et dans la défaite. Ça, c'est déjà accompli. Mais tous les autres, toute l'expérience en dehors sportive est un gros, gros chantier. Et je me demande éventuellement, parce que Kevin Gilmour n'a pas de background. Oui, il y a un background sportif, il y a un background d'un sport de deuxième catégorie dans un gros marché, mais la culture footballistique, c'est quelque chose assez précis, là.
Mais ça dépend de quoi son objectif. Est-ce qu'il doit chercher plus d'ultra et plus 1642 ou est-ce qu'il doit chercher des gens qui sont prêts à consommer un produit qui s'appelle le soccer MLS de l'Impact de Montréal? Et c'est une des questions. Peut-être t'as pas du comparatif, mais tout ça découle de ce qu'il dit. Montréal est un grand marché. On va se comporter comme un grand club.
Ouais.
Donc lui, ce qu'il dit, c'est que le Canadien prend toute la place médiatique là, comparatif, etc. Mais il y a assez de place pour qu'on nous on puisse faire de l'argent régulièrement et qu'on puisse être profitable et qu'on puisse avoir une notoriété, avoir une culture sportive importante du foot. Okay. Au Québec. Je pense que c'est ça qu'il dit.
Okay.
Il dit qu'il faut que j'y arrive maintenant.
Ce que je vois, c'est comme deux volets. Kevin Gilmour, on l'a su, il a été embauché comme consultant pour faire un état des faits. Un état des faits commercial du sport qu'est le soccer dans un marché montréalais. Il était capable d'établir, il connaît parfaitement les faits du potentiel de ce sport-là dans notre marché, la place du marché montréalais à travers l'Amérique du Nord, le potentiel de ce sport en Amérique du Nord, la ligue, sa structure, tout ça, là,
Il
l'a présenté là, de façon...
Il était prêt.
C'est clair, oui, prêt. Tu sais, il connaît son sujet.
Oui, il n'a jamais hésité et c'est exactement de quoi il parle, puis il a déjà étudié tout pour être prêt à être actif dès jour 1.
Le seul hic, c'est concrètement, une fois que tu connais le sujet, qu'est-ce qui doit être appliqué? On n'en a aucune idée. Ah. On ne sait pas s'il est capable.
C'est une question de priorité, Nilton. Il faut qu'il priorise. Il faut qu'il dise, OK, on a besoin de faire 15 choses. On a le budget pour en faire 5. Quelles sont les top 5 choses à faire?
Mais là, présentement, on n'en sait rien. Et c'est là qu'il faut... avoir comme la patience
oui.
pour que Kevin Gilmour nous prouve qu'il n'est pas seulement bon pour analyser une situation puis proposer et démontrer sur papier c'est quoi le potentiel. Là, il faut des pistes de solutions. Des pistes de solutions qui fait pas en sorte que c'est pas une garantie si tu as eu du succès dans un contexte précis, c'est-à-dire établir une franchise de hockey en Californie avec le support de Disney, à réussir quelques opérations marketing avec un club centenaire, historique, avec des racines très, très profondes. Là, c'est un projet totalement différent. Il doit bâtir pratiquement, pas from scratch, parce que l'Impact a quand même une certaine histoire, mais ça reste toujours du développement. Dans un sport, puis c'est pas pour être péjoratif, mais un sport qu'il ne connaît pas. Tu sais, c'est pas un footeur, c'est pas quelqu'un qui... Dans ton expérience, il vivait au rythme d'un club précis, qui a grandi dans la culture. Il est un peu comme tout le monde, disant que quand je vois les images de l'Impact de Montréal, je suis surpris par telle affaire. C'est pas quelqu'un qui a assisté à aucun match de l'Impact de Montréal l'année passée. T'sais, tout ça, c'est from scratch. Est-ce que c'est lui qui va trouver des pistes de solutions? Est-ce qu'il va s'entourer de personnes pour l'aider à trouver des pistes de solutions? Est-ce qu'il va avoir tous les outils pour le faire, le budget, etc. Tout ça, là, il va falloir être très, très patient. Puis, c'est pas une garantie foolproof pour l'instant.
Non, c'est vrai, mais moi, non, j'ai pas de même, mais c'est plus pour ajouter. Il est vraiment. Je pense qu'il va être capable de faire la promotion de ce qui se fait de bien à l'Impact et vendre ça pour vendre l'image et l'ADN du club et propager ça à travers la province et la ville d'abord, puis ensuite la province. Et je pense qu'il va y arriver. Mais est-ce qu'il va arriver avec les balises qu'il va se donner? Ben, je dis, moi, il faut que j'ai 15 000 billets de saison vendus là, pour d'ici 2021. Mais peut-être qu'il va réussir. Mais je pense qu'il l'Impact a fait assez de bonnes choses sur le terrain pour qu'on se dise qu'on peut essayer de vendre quelque chose. Mais ça va dépendre. Je pense que les 10 premiers matchs qu'ils vont jouer à l'extérieur ou les 9 premiers vont peut-être soit renforcer la vision qu'il va établir ou soit la ralentir. S'ils perdent 8 matchs, puis ils se font taper 4-1 à chaque fois, ils se disent, bon, je pense pas que je suis capable de vendre ça. Mais si ils gagnent 4 matchs, ils reviennent à la maison, puis ils ont une fiche, ils sont en deuxième de l'équipe de l'Est, MLSsoccer.com parle juste
oui,
d'eux.
Oui, c'est sûr que le volet
Piatti,
le classement va faire déjà un très, très gros chemin pour lui. Mais
le classement est autant catalyseur que destructeur pour l'Impact et pour Kevin Gilmour, je pense. Et ça, il est clair là, parce que c'est un club de foot, hein, ils jouent des matchs. C'est pas ils font pas du fromage, ils font pas des voitures, donc tu sais, le concret, c'est que tu gagnes ou tu gagnes pas. Et je pense que ça, comme j'ai dit, c'est que ça va catalyser le projet corporatif business de Kevin Gilmour ou le ralentir drastiquement. Donc ou pas, il se peut que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est assez binaire, mais voilà.
Bon ben on est dû pour les questions.
On est dû pour les questions. Un gros merci à Maxime Poliquin et Bobo Wynn pour les questions sur Kevin Gilmour. Je pense qu'on a répondu à vos questions par rapport à ça. Sauf Bobo Wynn, il demande est-ce que l'arrivée de Gilmour va raviver les discussions pour un All-Star Game à Montréal. À la fin de son mandat, je pense que si tout se passe bien, je pense que l'Impact va être considéré, mais...
Je ne sais pas si c'est vraiment une priorité pour les partisans de l'Impact.
C'est
quelque chose d'agréable.
Oui.
Si on pouvait avoir un match des étoiles, c'est sûr qu'on ne dira pas non au match des étoiles parce que contrairement aux autres sports, au moins, il n'y a pas un enjeu sportif, mais il y a un intérêt de divertissement, justement, avoir les stars de la MLS affronter une équipe.
Mais la Ligue n'est pas super intéressée par ça en ce moment.
Non.
Ni Toronto, ni Vancouver. Ça fait un bout. Et Toronto, ils ont quand même la masse... comment dire? Ils ont une masse quand même intéressante pour pouvoir avoir le match des étoiles à Toronto. Toronto, c'est aussi grand que beaucoup. C'est un des plus gros marchés nord-américains.
Exact.
Tout sport confondu, donc...
Et probablement que Montréal, oui, il y a eu la fameuse rencontre secrète entre Joey Saputo et quelques membres de sélectifs des médias où ils ont présenté une maquette de stade, ainsi de suite.
Ouais,
d'après moi, l'objectif, c'est si jamais ça se rend là, c'est de une rénovation de stade avec un match d'étoiles à la pluie et tout ça. Donc, tu sais, c'est pas une nécessité, c'est vraiment pas une priorité pour le club, cet événement-là. Là.
Non, c'est vrai, t'as raison. Bon, prochaine, les questions, here we go.
Bon, une qui est vraiment, elle est beaucoup trop tôt, c'est la... c'est tout un nickname, là. La poubelle à Tosin Ricketts nous demande... il sait qu'il est trop tôt, mais le playoff, est-ce qu'on peut déjà affirmer pour la saison 2019, playoffs ou no playoffs?
On peut pas affirmer.
On l'a dit la dernière fois. On pourra même pas
c'est
le
impossible.
Dire après 10 matchs. C'est parce que là, le calendrier...
Regarde, je sais pas ce que Toronto FC va faire. Les Union, c'est tout un mystère. Orlando, c'est un bordel. Les Red Bulls sont forts. City FC n'ont pas remplacé Villa. Revolution... C'est comme l'impact, on sait jamais. DC United, est-ce que Rooney va remarcher? Columbus, changement de coach, etc. FC Cincinnati, c'est un nouveau coach, c'est un nouvel club. Le Fire de Chicago, c'est comme l'impact, ça passe ou ça casse. Et Atlanta United FC, ils ont peut-être perdu Almiron, Martinez est revenu, nouveau entraîneur, Frank De Boer, qui est un grand nom, mais est-ce que ça vaut quoi à la MLS? Donc là, chaque club a ses propres facteurs X. Donc je peux même pas te dire qui va faire les séries MLS en ce moment-là. Waouh, quel portrait de l'Est!
Oui.
Je suis fort.
Puis
malheureusement,
ça, comme à chaque année, l'impact de la stratégie ultime de ce club-là, c'est d'être dans la course rendu à l'été pour pouvoir trouver des budgets quelconques pour aller chercher une star ou un DP. Donc, c'est essentiellement ça qui est l'impact de Montréal.
L'impact ne vise pas le top 2. Là. Pour le moment, ils savent que le top 2, c'est peut-être pas accessible, mais ils vont voir. Ils vont dire après 8 matchs, on voit ce que ça va.
Exact.
On voit ce que ça va. Mais il faut les prendre, il faut prendre les matchs à la fois, ça c'est sûr.
Arnaud Périgny nous demande, croyez-vous à du renforcement avant le début de la saison et Jackson part dans 6 jours ou pas?
Ben, je pense que Jackson s'en va nulle part.
Donc, tu penses?
Regarde, si un club le veut, il va partir malheureusement. Là, il est déjà en mode pré-saison. Non, c'est possible que Jackson s'en aille. Je suis plus intéressé à la première question, est-ce qu'il y aura du renforcement? Je pense que oui, mais ça n'est pas aussi excitant qu'on pense. C'est comme Silva a été une surprise l'an dernier, peut-être on a une petite surprise, peut-être au milieu de terrain. Non, pas au milieu de terrain, oublie ça. Là. Non, en fait, je ne sais pas qui va venir, non. En fait, j'y crois pas au renforcement, mais je pense qu'il y a peut-être un échange, je m'attends peut-être à un échange peut-être, qui va être intéressant, ça pourrait être bien.
Moi, mon scénario idéal, là, c'est que Jackson finalement ne trouve personne, ne trouve aucun club, qui obtiennent des minutes dans les matchs pré-saison, qui prouvent finalement que oui, il peut être une doublure à Urruti, oui, il peut même compétitionner pour ce poste-là. Mm-hmm. Parce que Jackson a un potentiel d'aller chercher une dizaine de buts en MLS. J'y crois, là.
Oui, moi aussi, mais...
Et que finalement, une doublure Urruti-Jackson pour la saison, je suis capable de vivre avec. Et si on débloque... Et si on trouve l'espace pour cet été d'aller chercher notre milieu créatif qu'on a tant besoin pour aller chercher cette dimension supplémentaire et différente de la nature dépendance, là, ce club-là n'est pas nécessairement un club qui est voué à la Coupe MLS, mais qui peut nous donner une saison hyper intéressante. Parce que l'impact, tu sais, au niveau budgétaire, on le sait, là, ils sont pas mal collés au plafond. Là,
ah oui, il n'y a pas place.
Mais il reste la possibilité de prendre Saphir Tader, de lui mettre du TAM, d'enlever son statut de DP. Et avec tout le TAM discrétionnaire, on peut aller chercher un autre DP au milieu de terrain.
Oui.
Pas nécessairement qu'un gars à 10 millions, pas à 5 millions, mais quelqu'un qui peut nous donner un 2-3 bonnes saisons et avec... Le réseau de contacts et de recrutement que Rémi Garde possède,
oui.
Je pense que c'est ce qu'il faut viser. C'est une espèce de réconciliation entre Jackson et Rémi Garde qui a été un peu brisée à la conférence de presse de fin de saison en 2018 et que Jackson obtienne l'opportunité de démontrer sa valeur parce qu'il ne l'a jamais eu. Il est arrivé au camp blessé ou en méforme l'année passée. Cette saison, la forme physique n'est pas un enjeu et forcément, il va en avoir des minutes parce que des avancantes, il n'y en a pas dans ce club-là. Urruti, il ne pourra pas jouer 90 minutes dans tous les matchs pré-saison. Donc, Jackson, il va avoir l'occasion
Je veux que Jackson Hamel réussisse. Je veux qu'il réussisse, mais est-ce qu'il va réussir ici? Est-ce qu'il mentalement il va être là pour vraiment se battre pour Heminga? Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que tout le monde prie et veut, et c'est pas fou d'y penser, que Piatti, Urruti et Novillo soient un trio de feu. On est d'accord que Novillo, c'est pas un 2 de pique, mais on attend quand même de voir ça vaut quoi physiquement et mentalement. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu jouer. Moi, les highlights YouTube ne m'intéressent pas. Je vais donner comme Silva, comme Vargas, je vais donner leurs 5, 10, 12 matchs pour voir ce que ça donne vraiment, peut-être moins, dépendant de leur forme. Et voilà. Mais on veut que ce trio marche. On veut que Tider soit minimum aussi bon que l'an dernier et que Piet soit défensivement parfait et que ces 5 joueurs-là ensemble, ça pète le feu. Tu ajoutes Jackson, comme tu as dit, comme un remplaçant de luxe qui peut-être va jouer beaucoup plus qu'on pense pour qu'Urruti ne se blesse pas après 6 matchs. Moi, je suis d'accord avec ça. En termes de renforcement, par rapport à la question d'Arnaud, j'espère, mais où la défense est remplie, etc. Donc, je ne sais pas trop ce qui va arriver. Donc, voilà, je n'ai pas plus de choses à ajouter, mais c'est une bonne question d'Arnaud. Mais j'avoue que c'est... Peut-être on aura des réponses dans 2 semaines.
Mathieu nous demande, Diallo, est-ce que c'est un partant ou c'est sur le banc?
Je pense que l'après... Très bonne question. En termes de leadership, c'est lui qui serait le plus prêt à être partant dans sa stature, son expérience, etc. Camacho, je ne sais pas trop ce que ça vaut en tant que Bekaruna. En même que l'impact va à 3 défenseurs centraux. On verra les premiers matchs pré-saison. Mais je pense que Diallo a le caractère et l'expérience d'être un leader. Comme Fanny, je ne sais pas. Mais il me donne cette impression qu'il pourrait être le partant. Et que ça va devoir se battre entre Raïtala, que je pense qu'il y a une coche au-dessus, une avance sur Camacho.
Clairement, le pari de Rémi Garde, c'est que Diallo remplace Fanny.
Oui, parce que Fanny ne revient pas.
Exact. Ensuite, ce qui m'étonne un peu, c'est ce qui est un peu sorti dans les quelques nouvelles cette semaine où on entend que Raïtala, dans sa tête, c'est maintenant un défenseur central pour ce club-là. C'est impossible que Camacho reste sur le banc 3 mois. Là.
Non, mais je pense que peut-être ça va tourner. Avant que tu me dises que Camacho va être échangé, ce qui est une possibilité, mais il coûte cher. Je pense que ça va tourner. Je pense que avoir plusieurs défenseurs centraux à haut salaire, ça fait mal, mais exact. Ça donne aussi une certaine flexibilité pour dire que c'est des blessures, des suspensions, et je fais des rotations.
Oui, parce que Diallo, ça reste un gros point d'interrogation au niveau physique. Là.
Bah oui, ouais. Parce qu'il était bien, puis boum, talon d'Achille, pas de chance, ça arrive.
Oui, puis probablement dans les plans de Rémi Garde, c'est qu'en début de saison, il va, comme tu as dit, il va tourner un peu son effectif. Ouais. Si tout le monde est en santé, Diallo, on va lui faire sauter quelques matchs. Là.
Oui, c'est vrai. Il faut bien le gérer, puis c'est au stade de faire ça. Ça, c'est délicat, mais comme pour beaucoup de clubs, ils auront les mêmes problèmes. Mais j'ai hâte d'avoir cette défense centrale et voir ce que ça va donner. Quoique Fanny va me manquer beaucoup, et pas juste moi.
Surtout Bush. Christophe Hamel, plutôt en janvier, Nilton avait fait son predict line-up en mettant possiblement Baya au milieu de terrain. Ouais, c'était un peu par défaut. Est-ce que c'est par manque de profondeur ou croyez-vous bien qu'il puisse réellement jouer à cette position?
Buzzword, les jeunes.
Les jeunes, ouais, les jeunes. Ben, tout va se décider dans le prochain mois. Là. Il y a une place de disponible, celle d'Azira. Mais je pense qu'Azira va finir par la garder parce que Rémi Garde va vouloir commencer la saison avec ses assurances dans ses postes. Comme ça, Azira ne fait pas mal ou il y a ses limites au niveau de créativité. Mais au moins, dans des matchs comme ça, dans une série de matchs à l'extérieur, oui. Azira va avoir un gros part de responsabilité dans cette équipe-là. Puis les changements de milieu de terrain, ça va dépendre de des performances de Wian, s'il est capable d'apporter un peu de créativité pour aller chercher un résultat en fin de match. Mais
c'est beaucoup de ifs pour des joueurs qu'on n'a pas vu jouer.
Vraiment pas vu jouer. Là.
Donc, wait and see, hein, parce que là, ça va être chaud, les gars. Ça va être super chaud.
Grosse question du gros Benji. Est-ce que Piatti devrait garder son main ban?
Moi, je dis oui. Ben oui. Il va le couper anyways, mais il est joli avec. Là. Il était en vacances, il voulait pas se couper les cheveux. Donc, je trouve que c'est bien. Il faut respecter les choix des joueurs. Il est joli. C'est un beau gosse.
Sam nous demande lequel de ces jeunes présentement au camp d'entraînement a le plus de chances de percer l'alignement partant du 11?
Aucun. Next question. Les jeunes, vraiment.
Mais si t'avais...
Si j'avais à mettre un...
Mais dans le fond, il...
Honnêtement, je
sais pas qu'on a un excellent 11, hein? On va dire les choses telles, mais on a tellement une profondeur, on va être gentil, léger, ça va être, ouais, c'est assez léger comme profondeur,
ouais,
que le seul poste où il peut avoir une surprise, c'est celui...
De Mathieu Chouinard.
Ouais, à côté de Tider. Oui, c'est le seul.
Oui, Mathieu Chouinard, c'est le seul joueur que je veux... Je voudrais que je le vois percer, parce qu'il est bon. Rémi Garde l'aime beaucoup, donc je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais oui, mais encore une fois, il faut voir les matchs. C'est beaucoup trop tôt, mais parce que ces jeunes-là, ils sont pas assez exposés à l'équipe première. Hein. Tu sais, les autres clubs, on les voit jouer 2-3 matchs, après ils disparaissent, mais au moins, on les... au moins, les autres clubs, certains, ils essaient, puis on les voit, puis ceux qui sont bons, ils sont bons. J'aimerais tellement qu'il y ait un prochain Bolo qui arrive et qu'on sait clairement ce qui se passe, mais honnêtement...
On sait que Garde peut tomber en amour avec un joueur puis l'utiliser sans problème. T'sais, on l'a vu avec un Kroliki, oui, c'est un peu par défaut,
oui,
mais il a aimé ce joueur-là pour ce qu'il pouvait lui donner sur un terrain,
oui,
dans une situation précise. Right Haller... Ce joueur-là aussi a obtenu une occasion un peu par défaut, mais il a prouvé son point à Rémi Garde. Et en fin de saison, quand il y avait des possibilités, qu'il était en compétition, c'est quand même Raitala qui était là comme titulaire. Donc, c'est pas impossible. T'sais, imaginons quelque chose d'incroyable. William a un camp d'entraînement fabuleux. Mm-hmm. Il enligne les passes clés. Il combine bien avec Tider. Il est allé chercher une coupe de but parce qu'il arrive tard dans la surface, puis il a l'aplomb pour le jouer. Il combine bien avec... c'est pas impossible qu'un gars comme Nguyen se retrouve dans la 11 partant dès le premier match à San Jose. C'est pas quelque chose de réaliste parce que Rémi Garde est capable de récompenser les performances, que ce soit en match pré-saison ou ou lors des entraînements.
Ouais.
Je ne le vois pas du tout. Hein.
Oui, je regarde, tout est possible, puis j'y crois, mais honnêtement, il faut que je le voie, Nilton. Honnêtement, moi, les trucs des jeunes, là, etc. Là, si Balot n'était pas bon, on ne le verrait jamais. Si Balot n'était pas assez bon,
okay, on va faire une parenthèse sur Balot. Okay? Moi, je vais t'en poser une question. Non, je suis fan. Là.
Mais
je suis
auditeur
de CCPP. Ouais. Puis ma question à Sofiane, c'est est-ce que Balot est encore à Barcelone à la fin de la saison?
Probablement que non.
Ça ne va pas super bien, hein?
Oui, mais voilà, il y a beaucoup de clubs qui restent longtemps dans des équipes de jeunes, puis c'est correct. Peut-être pas trop longtemps, mais lui, il va vouloir partir jouer des minutes professionnelles dans une D2 européenne, pourquoi pas. Peut-être qu'il va être prêté. Je pense pas, mais je dis pas ça parce qu'il est mauvais, là, parce que je regarde un peu quelques matchs, là, et derrière là, il a l'air bien, mais c'est le Barça quand même, là. Même si c'est le Barça B, voilà, quoi. C'est déjà mieux que d'autres joueurs, là, vont faire, mais ouais.
J'ai hâte de voir. Les prochains mois, là, j'ai hâte de voir le parcours de Balot. De ce que je lis, c'est sûr que c'est les médias sociaux, donc c'est toujours un peu... ceux qui parlent, c'est ceux qui sont critiques.
Oui.
Mais ce que je lis sur Balot, c'est pas terrible. Là,
non,
en plus, il n'est pas utilisé.
Oui, c'est vrai.
Je sais pas trop. Là, c'est, et Barça a tendance aussi à... Quand ça fonctionne pas avec un jeune, on parle de la réserve, là, ça change assez vite. Oui,
puis c'est
il y a un
taux
de roulement assez fort. Là.
Bah, tu imagines le nombre de jeunes qui sont bons qui vont à Chelsea dans les équipes de jeunes qui ne perdent jamais. Ça arrive souvent, ça.
Et Barcelone, là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Des jeunes qui ont sorti de leur réserve dernièrement, c'est pas...
En tout cas, on l'a ça pour le blague dans le podcast. Là. Le Barça, j'en ai trop parlé. Là. J'ai une réaction allergique. Allergique. Anthony Côté, si Vargas joue à une équipe universitaire chilienne, qu'est-ce qu'il va étudier? Nilton.
La gestion du temps.
Ah, bien joué.
Et le conditionnement physique.
Moi, c'est la physique quantique. Voilà.
J'ai hâte de voir ce qui va se passer. C'est toujours intéressant, les mercato de l'Impact de Montréal. C'est fou. On vient d'apprendre qu'il y a peut-être des clauses plus ou moins formelles dans les contrats des joueurs. Bref, Vargas, je le vois très, très mal revenir avec le club. Là. Ils vont probablement trouver une autre solution, que ce soit au Chili ou ailleurs.
Oui, ils vont tout faire parce qu'ils veulent libérer sa place à l'international et son salaire. Quoi. Ils n'ont pas le choix. Peut-être ramener quelqu'un d'autre, j'espère.
Docteur Faute nous enligne quelques questions. Adapter le stade, c'est plutôt aux conditions hivernales. Est-ce que ça devrait être la priorité?
Pas en 2019. Non, je pense pas à Newton parce que s'ils remplissent le stade et qu'il y a une demande des membres, parce que les membres ils peuvent les sonder, si tu as leur contact et tout, si 15 000 membres te disent oui, les matchs en mars, on vient.
Je veux les assister. Ouais, ça, je pense que c'est comme un vœu pieux, ça.
Oui, c'est un vœu pieux. C'est pas nécessairement. Si les gens le veulent, tes clients sont prêts à le payer, puis ça vaut la peine, puis l'infrastructure qui va être amortisée de façon intéressante. Je dis pourquoi pas, mais c'est en 2019, Dr. Foot. Ce n'est pas une priorité du tout.
Mais il y a tout le temps des sujets comme ça. Comme le club réserve, là, ce ultime vœu pieux, la journée là, que l'Impact de Montréal annonce le retour du club réserve, là, du FC Montréal, le hashtag IMFC va perdre à peu près 25 % de leur contenu. Hein. C'est incroyable. Là. C'est tout le temps la même rengaine.
Oui.
C'est toujours le l'arc-en-ciel de toutes les solutions. Et probablement que si le club annonce ce retour-là, le prochain vœu pieux, ça sera ça, là. Le stade pour l'hiver. Là. C'est pas sûr que c'est vraiment une priorité, comme tu dis. Encore moins certain que ça soit réaliste, que ça soit nécessaire. L'Impact de Montréal va jouer un match en avril.
Oui.
Pourquoi il ne joue pas les trois autres matchs à Montréal? Pourquoi il repart? S'il est capable de jouer un match en avril, pourquoi les deux prochains sont à l'extérieur?
Peut-être l'Impact négocie avec la Ligue d'avoir des matchs en été, plus des matchs en été, donc les prix plus hauts, avec des clubs plus huppés. L'été, c'est le fun, il y a plus de gens. C'est quoi la blague qu'on dit là? Québec vit l'hiver, Montréal le subit? Voilà quoi. Moi, l'hiver, je déteste. Là, donc voilà. Aller au stade extérieur à moins 15, ça ne me tente pas. Donc, c'est peut-être ça. On va profiter du printemps et de l'été et de l'automne montréalais, comme ça. Ça fait le buzz. Puis le stade est beaucoup plus, propice à être rempli si t'as une météo intéressante. Mais bon, c'est à voir.
Une autre question de Dr. Foot concerne le dossier Jovinko. Pas de fumée sans feu ou juste une technique de négo pour la Formica Atomica?
Moi, je pense que.
Tu crois le départ de Jovinko?
Je pense que s'il n'a pas le choix, il va partir, parce qu'on va lui donner tellement d'argent qu'il ne saura pas quoi faire avec aux Émirats. Mais c'est les deux, là. Il va rester si on lui donne l'argent, il s'en va si l'autre club lui donne l'argent. C'est pas compliqué.
Moi, si j'étais Toronto, exactement, là, comme tu dis, si un bon deal, c'est quasiment une bénédiction pour Toronto, ouais. Parce que le renouvellement du projet, ça semble être pas mal la chose à faire.
Moi, je pense que
Bradley, Altidore, Jovinko, à la limite, s'il pouvait garder Jovinko, tant mieux, mais. L'opération d'un transfert de Jovinko peut relancer une nouvelle phase. Là.
C'est vrai, c'est pas comme si le club a besoin de cet argent-là, ils sont riches, mais en termes de budget interne, recevoir un retour sur investissement sur Jovinko, c'est super. Et dans tous les cas, ils ont fait leur travail, ils ont gagné la Coupe MLS.
Oui, c'est ça.
Ils ont perdu en pénalty à la finale à la Ligue des Champions contre CACAF. Ils ont fait le triplé. MLS Coupe canadienne, ils ont failli faire un quadruplé avec la Ligue des Champions CONCACAF. Ils étaient à un penalty ou deux de gagner. T'imagines? On aurait parlé de ça pendant des décennies si Toronto avait gagné la CONCACAF. Imagine. Donc je pense que mission accomplie pour Toronto. Ils l'ont fait. Là, ça va chuter. Ils vont peut-être être en chute libre pour un bout. Mais voilà, ils ont fait leur travail. C'est tout. L'Impact essaie de faire la même chose, mais ils n'y arrivent pas. Il veut faire des coups rapides. Donc c'est ça.
Bon, une dernière question ami Andy.
Une dernière question, let's go.
Dernière question. Andy Raphaël, ton ami, nous demande quelle sera la charnière centrale pour l'Impact de Montréal? Si tu avais...
Diallo Raitala.
Ouais, hein, c'est fou. Hein? Moi aussi, c'est ce que je vois.
C'est celle que je veux maintenant. Je sais pas si c'est celle qui est bonne, là, mais Raitala Diallo, c'est ça que j'aime bien.
Ouais, c'est ce que je vois là, pour à moins de blessures, à moins d'un Camacho qui. Mais dans les matchs pré-saison comme ça, je suis pas convaincu que Camacho est capable de prouver. Parce que tu sais, il faut des affrontements assez solides. Dans les matchs pré-saison, c'est pas tout à fait ça.
Ouais.
Camacho, il va traîner un peu ses contre-performances de l'année passée. Il va obtenir sa chance, c'est sûr. Mais pour débuter la saison, je pense qu'il va y aller avec un avec un writer là, à moins que Diallo il soit pas en forme optimale, puis qu'on se retrouve avec un Camacho writer là.
Non, c'est vrai, je préfère writer là Diallo, mais honnêtement, Camacho, c'est en transition, là il est prévenu, tout va bien aller, donc j'ai confiance là. Je pense pas que Camacho va être une fraude totale. J'ai hâte de le voir s'améliorer, être beaucoup plus présent et beaucoup plus en fait je veux Fanny, en fait je dis ne m'inquiétez pas là, moi je veux Rod Fanny. Oubliez Diallo, Raïtala, la question de Hadi, moi je veux Rod Fanny, mettez qui vous voulez à côté.
Mais là il aurait fallu que ce soit Rod Fanny, mais là ils ont pas réussi, c'est plus ça là.
Bon, sur ce, merci, on arrête l'émission. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Et merci à La Force du Malte de nous sponsoriser. Un gros merci à Guy Lafrenière et toute la famille à La Force du Malte. Nilton, toujours un plaisir. Merci encore.
C'est un plaisir encore plus fort pour moi. Parce qu'on peut parler de notre semaine, imagine.
Netflix and soccer, c'est le nouveau concept. Pour nous trouver, at Nilton George, George, c'est J-O-R-G-E, at Sofiane Bendaza, Can Football Club sur toutes les plateformes Facebook, Twitter, Instagram. Sur votre application podcast préférée, cherchez le Can Football Club, vous allez trouver le ou les podcasts. Et enfin, patreon.com/Can Football Club pour nous supporter. Merci tout le monde et bonne soirée et bonne semaine. Ciao, ciao.
Yes. Ciao la gang.
Ciao.
Ce podcast est présenté par la microbrasserie La Force du Malte, la bière du 12e joueur.